En ce temps-là, Pilate dit à Jésus, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ton peuple et les grands prêtres te l'ont livré à moi, et qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes gens combattraient pour empêcher que je sois livré aux Juifs. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate alors lui dit, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né. Voici pourquoi je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité entend ma voix. » Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, quand nous voyons l'époque dans laquelle nous vivons et ce spectacle auquel je viens de faire allusion, nous nous disons qu'il y a un parallèle étonnant entre l'époque où vivait le Seigneur Jésus-Christ et la nôtre. Derrière la figure de Pilate ou d'Hérode, on reconnaît, évidemment, et sans trop de mal, nombre de chefs d'État et de responsables politiques qui sont sceptiques ou narquois devant la prétention du Seigneur à régner. Quant aux prétendues œuvres d'art qui défraient la chronique régulièrement, je veux parler de Pisse-Pisse, de Golgotha, Pique-Nique et autres saletés qu'on nous propose, comment ne pas les rapprocher de l'infâme comédie de la soldatesque romaine, infâme comédie qui fut imposée au Christ avec ce vêtement de pourpre, avec cette couronne d'épines qui s'enfonçait dans son front et avec ce piquet dont on le frappait et dont on faisait une caricature de sceptre. Les païens de toute époque tournent en dérision le Seigneur, ils tournent en dérision le roi des rois. C'est aujourd'hui la fête du Christ roi, et je voudrais me demander avec vous pourquoi ces personnes manifestent-elles un tel aveuglement, pourquoi ont-elles un tel refus de considérer effectivement ce que le Christ revendique comme vrai. Tu le dis, je suis roi. Pourquoi un tel acharnement? Il y a bien sûr, je crois, cette insoumission native de l'être humain à l'égard de son Créateur, à l'égard de son Dieu. C'est même pas contre un roi qui s'insurge, c'est contre son Créateur. Toutes ces scènes, toutes ces rébellions et tous ces avilissements de l'image du Seigneur qu'on nous propose portent la griffe du même ange déchu. Et quelle est la devise de cet ange déchu? Non serviam. Ce n'est pas tant contre un roi qu'il s'érige lui-même ou un prince, c'est contre son Créateur. Il en veut à Dieu de l'avoir créé ainsi, et il en veut encore plus à Dieu d'avoir créé ces petits êtres humains de chair et un petit peu d'esprit dans lequel viendrait s'incarner le Fils de Dieu lui-même. Alors qu'entend Jésus lorsqu'il affirme qu'il est roi? Parce que je crois que ce qui motive cette rébellion contre le Christ roi, c'est le fait qu'on ne saisisse pas la nature de cette royauté. Alors, encore une fois, qu'entend Jésus lorsqu'il dit « Je suis roi ». L'homme est ainsi fait qu'il passe son temps à tirer la couverture à lui. C'est-à-dire qu'il passe son temps à considérer uniquement ce qu'il a sous les yeux, ce que ses sens lui proposent. Ainsi, lorsque Dieu s'affirme le pasteur, lorsque Dieu s'affirme le père, lorsque Dieu s'affirme le roi de l'humanité, notre pauvre homme, et nous en sommes, se contente de regarder les images de pasteur, les images de père, les images de roi qu'il peut avoir devant les yeux. Quand Jésus affirme que Dieu est son père, mais qu'il est également le père des hommes, eh bien l'homme pense immédiatement, avec son imagination, à toutes les réalisations concrètes humaines de la paternité. Et dans un espèce de mouvement pervers, qui est dû au péché, il se focalise très souvent sur les imperfections, les insuffisances de la paternité humaine. Combien d'enfants qui ont été battus, combien de personnes qui n'ont pas connu leurs parents, ou combien de personnes qui ont eu un contre-exemple dans la personne de leur père, ne veulent pas entendre parler de la paternité, et ne veulent surtout pas entendre parler de ce Dieu qui se revendique père. Quand le Seigneur Jésus affirme qu'il est le berger de ses brebis, qu'il est le pasteur, alors immédiatement, dans une imagination pour le coup un peu plus sympathique, on se représente tel ou tel berger croisé au détour d'un chemin en montagne. Ce berger, il était avec sa houlette, il régnait sur ses petites brebis et il s'aidait du chien de berger et de ses sifflements pour que les brebis aillent de gauche et de droite. Cette image du bon pasteur, tout le monde la trouve sympathique. Mais de là à accepter de comparer Dieu à ce bon pasteur, c'est-à-dire nous à ses brebis, nous à des petites brebis qui doivent rester dans le troupeau, là, il y a un pas que les hommes, au fil des siècles, ont très souvent refusé de faire. Moi-même, je suis indépendant, je suis autonome, je choisis d'aller à droite ou à gauche, je ne veux en aucun cas être de ces moutons de Panurge qui suivent les prêtres, les évêques, le pape et Dieu lui-même. Je veux tracer ma route et tout seul. Je n'ai aucun ordre à recevoir. Alors de ce Dieu berger, on peut trouver très sympathique, on l'appelle même le bon Dieu, et beaucoup de nos contemporains sont d'accord pour cela, oui, pourquoi pas un Dieu berger. Mais moi, non, on ne m'impose rien. Quant à cette image du roi, quant à cette revendication de Jésus-Christ comme roi, alors là, l'imagination de nos contemporains ne fait qu'un tour. Lorsqu'on utilise cette comparaison devant eux, ils se représentent immédiatement les attributs habituels de la royauté. Quels sont-ils, ces attributs? Eh bien, c'est un palais, c'est une cour, c'est un pouvoir législatif, c'est le droit de battre monnaie, c'est le privilège de lever une armée, c'est un certain nombre d'éléments très visibles, très matériels, j'allais dire, qui, d'habitude, servent pour roi à exercer effectivement son pouvoir. Et constatant que ces attributs manquent au Seigneur Jésus, ses contemporains refusent de le reconnaître au roi. C'est cela qui advient avec Pilate, avec l'armée romaine, avec Hérode. Il n'y a pas d'autre roi que l'empereur romain ou que tel ou tel prince qui a un véritable pouvoir, une véritable potestas. Or, toi, Jésus de Nazareth, tu n'as aucun des privilèges de la royauté, tu n'en manifestes aucun des oripeaux, tu ne mérites pas de te prétendre roi. Alors nous allons nous moquer de toi. Puis, il y a une autre tendance à l'égard de cette revendication du Christ à la royauté, c'est cette imagination toujours galopante qui nous fait le représenter le roi humain comme un tyran, systématiquement un tyran. À l'époque de Jésus, tel n'était pas le cas. L'idée royale, l'idée de la monarchie, était admise partout. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent, où le pouvoir d'un seul, monos arché, est systématiquement considéré comme menant à la tyrannie. Alors si Dieu, si le Christ revendique ce privilège de régner, nous voyons immédiatement le danger qu'il y aurait à ce que ce Jésus devienne un tyran. Alors nous écartons son pouvoir. C'est un peu cela qui traverse le discours d'un bon nombre de nos contemporains qui refusent de servir un seul, fût-ce Dieu. Vous voyez, c'est cette mauvaise conception de ce qu'est la royauté, parce que soi-disant toute royauté humaine serait au moins potentiellement tyrannique. Vous voyez, tantôt, quant à l'idée de roi, on se fait une très haute idée de ce qu'est la royauté, mais peut-être trop matérielle, et puisque Jésus n'en manifeste pas les attributs et ne semble pas avoir les mesures de sa faute, les moyens de sa politique, nous lui refusons le titre de roi. Tantôt nous considérons que la royauté est par essence perverse, parce que nous avons vu deux ou trois rois qui étaient devenus tyrans, et alors nous refusons de servir ce Dieu qui se prétend roi. Décidément, l'homme est incapable de lever les yeux, de lever le nez de la terre et de s'élever un peu pour comprendre que la royauté, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que ses sens lui apportent directement comme représentation. La royauté, c'est autre chose. Et que semble faire Jésus tout au long de son existence, sinon restaurer la notion claire, la notion équilibrée de ce qu'est la royauté. Tout au long de sa vie, que fait-il, sinon secouer la poussière qui s'est accumulée sur ce beau concept de royauté? Je m'explique un petit peu. Jésus semble dire tout au long de sa vie à ses contemporains, vos rois ont une cour brillante, là n'est pas l'essentiel. Là n'est pas le cœur de la royauté. Ma cour brillante, voyez ce qu'elle est. Elle est composée d'estropiés, de pêcheurs publics à peine repentis et d'un groupe de 12 ou quelques pêcheurs qui m'entourent. Vous voyez, ma mère est quelqu'un d'assez obscur, certes de lignée davidique, mais enfin, mon père est charpentier, c'est un beau métier en Israël à cette époque. Mais ce n'est quand même pas grand-chose. Peu importe la cour. Vos souverains ont des armées puissantes, ils lèvent des mercenaires et ils font porter armes et bagages à ces hommes. Ils veulent écraser toute opposition à leur pouvoir. Là n'est pas l'essentiel. Peu importe. Voyez mon armée, il n'y en a pas. mes armées sont angéliques et vous ne les voyez pas, alors vous n'y croyez pas. Peu importe. Là n'est pas la royauté, le cœur de la royauté. Vous reconnaissez la souveraineté de vos monarques au privilège de battre monnaie. Alors qu'est-ce que je vous affirme, mes chers amis? Je vous affirme, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Moi je suis Dieu, je suis roi, et pourtant je ne lève pas d'impôt et je ne fais pas battre monnaie. Là n'est pas le cœur de la royauté. Vous voyez, le Seigneur qui petit à petit dépoussière ses attributs de la royauté, ou du moins les écarte, même quand ils sont nobles et fondés pour la royauté humaine, pour nous montrer que là n'est pas le cœur du concept de royauté, quelle qu'elle soit, mais surtout pas la royauté qui le revendique. Le pouvoir royal, encore une fois, le Seigneur semble nous dire, vous le reconnaissez aux oriflammes, vous le reconnaissez aux bannières qui claquent. Il suffit de pèlerinage de Chartres pour constater cette tendance naturelle que nous avons à nous incliner devant des bannières qui claquent. C'est vrai que c'est beau, ces belles bannières qui claquent en pleine de Beauce. Oui, mais le Seigneur nous dit, cela n'est rien. Ces oriflammes sont des attributs humains. Mes seules armoiries, quelles sont-elles? Une brebis égorgée. Une brebis blanche, immaculée, mais une brebis égorgée. Vous voyez que le Seigneur vraiment va au cœur de ce qu'est la royauté. Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà la conclusion qu'il donne à tout cet enseignement qu'il nous délivre sur la nature de la vraie royauté et du vrai royaume. À quoi compare-t-il le royaume, sinon à un grain de sénévé? Ou ailleurs, nous dit-il, le royaume est semblable à un filet que des pêcheurs attirent et qui ont pris des poissons, etc. Ils font le tri. Bon. Le royaume est encore comparable, c'est un peu plus noble, mais c'est peu de choses, avouons-le, à un trésor caché dans un champ. C'est pas grand-chose. Vous voyez que, vraiment, Jésus veut nous faire quitter cette conception spontanée de la royauté pour nous faire entrer dans ce qu'est vraiment la royauté. Et ce qui est vraiment le royaume que lui, le Christ, revendique. On me dira, mais il reste plus rien. C'est complètement évanescent. Non, vive le Christ roi, acclamé par les foules autour de Pie XII, dans sa cédia. Tout cela est très vrai et tout cela est très beau. Mais nous avons toujours ce piège, dans ce type de représentation, d'aligner la royauté du Seigneur Jésus sur une royauté humaine. Qu'importe que la garde pontificale existe encore, que la noblesse romaine existe encore ou pas, peu importe que la cédia soit encore en place, la tiare du souverain pontife, qui représente ni plus ni moins que la couronne du Christ, le pape étant le doux Christ en terre. Peu importe ses attributs. Ces attributs, ils sont souvent nécessaires, mais ces attributs sont néanmoins dispensables. On peut éliminer ses attributs sans attaquer le cœur de ce qu'est la royauté. La royauté du Christ, finalement, quelle est-elle? On me dira, c'est peu de choses, mais si le Seigneur dit que c'est tout, il faut même l'écouter. Le jeudi saint, que dit-il à ses apôtres? Qu'il vient d'instituer ses ministres, qu'il vient d'instituer apôtres, précisément, qu'il vient de consacrer évêques, et à qui il a donné quasiment tous les pouvoirs, qui sont les siens. Que leur dit-il? Que celui qui veut être le premier d'entre vous soit parmi vous comme votre serviteur. Voilà donc ce qu'est le cœur de la royauté. Et de toute royauté, celle de Dieu en premier lieu, et de manière éclatante, et celle de ses représentants sur terre, que sont les rois des différentes époques. Le service. Servir, c'est régner. Donc, quand on règne, on doit servir. Vous voyez que cette conception de la royauté, c'est tout à fait surprenante. Elle est, je crois, le propre du christianisme. Et lorsqu'on a consacré par l'onction certains rois des temps jadis, mais pas si jadis que ça finalement, quand on les a consacrés rois de droit divin, lorsqu'on les a consacrés nouveaux empereurs romains, défenseurs de la paix, défenseurs de la chrétienté, eh bien, ce qu'on leur demandait en premier lieu, c'était, à l'image du Seigneur Jésus, d'être un serviteur, d'être des serviteurs. Et c'est lorsque le roi, lorsque n'importe quel monarque cesse d'avoir devant les yeux ce premier devoir, ce qui fait l'essence de la royauté, et ce qui fait l'essence de sa charge, le service, que nécessairement cette royauté s'effiloche. C'est pour d'autres motifs qu'un monarque règne, nécessairement son empire, son royaume, sa principauté connaîtra la décadence. C'est lorsque nous autres chrétiens qui participons à la royauté du Christ, ne considérons plus que notre premier devoir en tant que roi, parce que roi nous sommes par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. C'est lorsque nous perdons de vue que notre seul privilège de chrétien et notre seule fonction de chrétien est le service, qu'alors s'effiloche tout le christianisme. Évidemment, l'assistance du Saint-Esprit permet à l'Église de demeurer. Évidemment, la vérité continue à être transmise. Jésus nous l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, oui. Mais à cause de notre manque de disponibilité, à cause de notre manque de service, à cause de notre manque finalement de fidélité à notre charge royale, nous faisons connaître à l'Église des heures sombres. Et nous faisons obstacle à sa mission apostolique et à sa mission royale. Voyez combien cette fête du Christ roi est quelque chose qui nous concerne. Ce n'est pas seulement une sorte de vénération du Christ roi qui est là-haut dans les airs, qui est créateur, maître de toutes choses, rédempteur, à qui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout pouvoir m'a été remis au ciel et sur la terre, toute chose magnifique. Et que nous ne devons pas cesser de contempler. Lorsqu'on a vidé le visage du Seigneur avec des déchets humains, peu importe, nous le savons, le Christ règne. Je règne aux cieux et sur la terre, parce que je suis créateur et parce que j'ai tout recréé. Le Seigneur n'a pas besoin d'armée, encore une fois, il n'a pas besoin d'étendard. Le simple fait qu'il soit le Seigneur suffit à assurer une royauté absolument pérenne. Il est roi pour les siècles des siècles, il n'a pas besoin de nous. Mais voyez combien cette vénération de la royauté du Christ doit s'accompagner également d'une considération de notre propre royauté. Voyez combien cette fête du Christ roi est un petit peu notre fête et en même temps un rappel à l'ordre de ce que nous devons être. Nous devons régner, c'est-à-dire nous devons servir. Voilà, je pense que pour conclure, il est bon de se remettre entre les mains de celle qui avait compris cela. Autre, la Vierge Marie, je suis la servante du Seigneur. C'est-à-dire, je suis la reine des anges. Elle ne le savait pas encore, mais dans le dessein de Dieu, tout était prévu. Je suis la servante du Seigneur, égale, je suis la reine des anges. Plus nous abaisserons, plus nous servirons. Et je vous prends souvent comme exemple la figure du père de Foucault, qui voulait être le dernier des derniers. Et plus nous régnerons, plus nous serons exaltés en présence du trône céleste. C'est ce qui arrive à la Vierge Marie, qui est reine de la création, à sa place, rien que sa place, mais toute sa place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.